Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Le premier est un multi-instrumentiste qui joue de la kora, d'une gonie, de l'arcabouche, de la flûte peul. Il a grandi à Lankoé, en pays Samo, à 150 km au nord-ouest de Ouagadougou. Et avec son frère Tim, il est devenu un ardent défenseur et promoteur des instruments traditionnels burkinabés sur les scènes de concerts ou de théâtre ou dans des spectacles de contes. Il s'appelle Simon Winsey. Le second est DJ, producteur. Cela fait des années qu'il sillonne l'Afrique de l'Ouest. Il vient de sortir son deuxième album, Traversé par les lames du balafon. Son nom d'artiste, c'est Practica. Tous deux fusionneront en concert demain soir à Paris sur une péniche amarrée quai de la Loire dans le bassin de la Villette dans le cadre de la 27e édition du Festival de l'Imaginaire. Et vous m'en direz des nouvelles. Allez, un petit souvenir pour commencer avec Practica et Simon qui sont avec nous. Bonjour.
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 Merci beaucoup à tous les deux. Alors ce morceau, il y a quelques années, il figure sur le premier album de Practica en 2021. Il s'intitule Rencontre. Rencontre en l'occurrence entre le Ngoni et le synthé, mais aussi rencontre entre vos deux univers et rencontre évidemment humaine entre vous deux. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux, Simon Winsey?
Avec Practica?
Oui.
C'est quand? C'est pendant,
en 2020,
c'est en 2020, ouais. Bien vrai, c'est en 2020, on a l'impression que vraiment ça fait des années qu'on se
croit. Vous êtes croisés en concert, en festival, comment ça s'est passé?
On devait préparer un concert pour le Petit Bain. Et on a fait quoi? Deux jours de répétition?
Deux jours de répétition, ouais. On a fait deux jours de répétition et puis on a commencé à travailler. Et puis
et le Covid est arrivé.
Le Covid est arrivé.
Et donc le concert annulé.
Ouais, mais la rencontre s'était quand même déroulée.
Voilà.
Bon, et vous, Simon, vous étiez déjà amateur d'électro avant de rencontrer Practica?
Non, pas trop. Pas trop. Mais après, j'ai écouté un peu la musique électro. Mais après, quand il m'avait proposé, je me suis dit, bon, pourquoi pas aussi, si quelqu'un est ouvert aussi, j'aime bien aussi y aller aussi, voir comment ça donne.
Oui, parce que vous, votre univers, c'était évidemment la musique traditionnelle, mais c'est aussi le jazz, quoi,
voilà.
À la base. Hein.
Voilà.
Alors, vous êtes un chasseur de sons, Practica, et de musique, vous êtes nourri de vos voyages, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui vous a envie, comme ça, de promener vos oreilles dans les musiques ouest-africaines?
C'est assez spécial en fait. Moi, je suis vraiment enfant de la musique électronique. Je mixais beaucoup de la techno de Détroit et techno anglaise avant ma rencontre avec l'Afrique. Et c'est en 2014 en fait, je suis tombé sur une émission. En 2013, pardon, fin 2013, je suis tombé sur une vidéo YouTube où je voyais mon mentor qui s'appelle James Holden. C'est un artiste anglais. Lui, il fait plus du synthétiseur modulaire. Et en fait, il a fait une résidence avec des Gnawa, donc c'est Afrique du Nord, au Maroc. Et pendant 3 semaines, en fait, il s'est testé à faire sa musique électronique avec une musique traditionnelle. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Par rapport à avant, ce que j'écoutais, c'était de la techno tribale, des choses où c'était beaucoup de samples, de percus, ça ne m'intéressait pas forcément. Mais là, en fait, son approche avec la musique traditionnelle et son mélange avec ses synthétiseurs, ça m'a donné envie d'aller plus loin et du coup de partir au Burkina Faso.
Et pourquoi le Burkina?
Et le Burkina Faso, c'est parce que déjà, j'ai un membre de ma famille qui était passé par là. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par la famille qui l'avait accueilli.
Ouais.
Et je suis resté 2 mois au Burkina, c'était à Bobo-Dioulasso. Et j'y suis retourné 6 mois après, j'y suis retourné pour 1 an. Et après, bon, après, je suis resté un peu plus longtemps en Afrique.
Ouais, et donc, de ce voyage est né, de ce ou ces voyages, donc est né le premier album de Practica en 2021, album intitulé Ben Kadi. Alors, Ben Kadi, je parle sous votre contrôle, c'est un mot churuma, c'est ça ?
Ouais, ça veut dire la bonne entente.
Ouais, c'est ça la recette finalement de la fusion ?
Oui. Franchement, c'est de ce que j'en sors de toutes mes rencontres avec les musiciens. C'est en fait, on est tous des amis à la base. Et avant de faire de la musique, j'aime bien qu'on se connaisse vraiment. Voilà.
Donc, c'est important avant, comme ça, de se mettre aux machines et aux instruments. C'est très important donc, de se préparer, de se mettre dans un bon mood, quoi, si j'ose dire.
Bah, de connaître la personne, ouais. Ouais. Même si elle a du talent, c'est 50-50, c'est le talent et bien connaître la personne. Ouais.
Alors comment on installe justement cette bonne entente musicale, Simon Wensé ?
Oui, comme ce qu'il dit, moi aussi c'est pareil aussi. Bien vrai pour moi, c'est les instruments traditionnels que j'ai appris depuis au village. Et puis, comme ce que je dis au début, moi je commençais d'abord avec les paroles. Tu vois, accompagner le conte et le théâtre. Même jusqu'à présent, je continue toujours vraiment dans cette collaboration avec le théâtre.
Oui, oui. On vous avait reçu d'ailleurs à Limoges il y a des années et des années.
Voilà. Donc, voilà, comme ce qu'il dit, c'est des rencontres. D'abord, il y a la musique, mais il y a la personnalité aussi, avant de créer tout. Donc, depuis quand on s'est rencontrés, ben, on a trouvé un truc tac-tac entre nous, tout de suite.
C'est en pratiquant, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On sort petit à petit. Petit à petit, les notes naissent et par exemple, ça donne ça.
Ndolimbi. Tago. Tago. Tago, c'est le.
Elder, Practica et Simon Wensé qui sont tous les deux avec nous dans VMDN sur RFI. Alors Simon, dans le sillage de Tim, votre frère aîné, vous êtes un grand défenseur, on le disait, des instruments traditionnels de la culture samo. Vous jouez de l'arcabouche, d'une goni, de la kora, de la flûte peul. J'en ai oublié d'autres, des instruments ?
La calebasse.
La calebasse, ouais.
Bon,
puis votre voix aussi, parce que c'est justement la voix. On est bien d'accord. Bon, tout ça, vous avez appris en écoutant et en regardant les autres ?
Oui. En même temps, pour l'arcabouche, je suis né dans le village. Bon, je voyais Tim, comme ce que vous dites, mon grand frère. qui jouent. Et puis, ben, ce sont des instruments aussi qu'on joue aussi pendant les récoltes de maïs. Et pour raconter des histoires, des contes. Ben, pour nous aussi, dans mon village, je crois que les instruments donc, on utilise beaucoup. Et ça nous permet aussi vraiment d'avoir de quoi s'occuper aussi pour que les parents puissent aller travailler. Comme souvent dans les écoles, j'ai dit qu'il n'y a pas de crèche chez nous. Notre crèche, c'est les enfants qui fabriquent les instruments et qui jouent. Et puis voilà, après si on grandit, on part au champ. Et d'autres peuvent continuer la musique comme moi. Mais ça fait partie...
Ça fait partie de la culture, quoi, de la vie quotidienne, voilà, finalement, des gens
laisser,
du village.
Voilà, laisser les parents.
Donc ça veut dire que tous les instruments dont vous jouez aujourd'hui, Simon, c'est vous-même qui les avez fabriqués ?
Oui, oui. Ben, on n'a pas de
On
n'a pas de magasin de musique.
Bon, le balafon, vous n'avez pas joué le balafon?
Non, le balafon, je n'ai pas joué.
Bon, on parle du balafon parce que le balafon, c'est un peu l'instrument fil rouge de votre second album Practica, Balani Factory, qui est sorti il n'y a pas longtemps, au mois d'avril. Bon, le balafon, parce qu'il y a une rencontre encore. Encore une rencontre.
Oui, mais c'est toujours au Burkina, parce que c'est quand je suis arrivé au Burkina, j'ai rencontré deux balafonistes qui jouaient un matin. Un matin, je me lève, c'était littéralement c'était ça. Je me lève et j'entends des notes de balafon et je sors dans la cour. Et là, je vois deux balafonistes du groupe de Kouroudoué. Et c'est ma première fois que je voyais des balafons déjà. Et j'ai ressenti quelque chose d'assez fort. C'est pour ça que je me suis toujours juré que j'allais faire quelque chose de cette sonorité. J'ai mis un peu de temps parce que du coup, de 2014 jusqu'à maintenant. Mais j'en ai fait un album, du coup un fil rouge, c'est-à-dire que sur tous les morceaux j'ai essayé d'en mettre. C'était assez dur parce que le balafon c'est un instrument qui prend beaucoup de place dans le spectre sonore. Et moi je fais quand même, je prends beaucoup de place aussi.
Attention, voilà, donc coup, il faut remiser ses prétentions. Alors,
il faut faire un mariage, et donc ça a mis du temps, mais grâce à ce temps-là, j'ai fait beaucoup de rencontres.
Oui, et notamment celle d'Innocent Kimpé.
Innocent Kimpé, oui, c'est un Burkinabé du coup qui vit à Bobo-Dioulasso. C'est un jeune balafoniste, il a 25 ans. Nous, on s'est rencontrés il y a 7 ans. Et on a fait une résidence fin 2022 à Korogo, donc dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Oui.
Voilà.
D'ailleurs, le balafon, c'est un peu originaire de cette région-là, d'ailleurs.
C'est c'est en terre Sénoufo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui est marrant, c'est que les balafons Sénoufo et les balafons Bobo, ils sont complètement différents.
Ouais.
Et ils se jouent complètement différents. Donc, du coup, c'était assez intéressant de ramener Innocent Kimpé à Korogo. Et on a joué même avec des Sénoufo, on a joué sur des gammes Sénoufo mélangées avec des gammes de Bobo. Enfin voilà, et on a fait vraiment des recherches tous les deux.
Donc c'est plus une fusion, là il y a plusieurs fusions en même temps.
Oui, complètement. Et du coup, c'est comme Ben Kadi, comme on disait sur la rencontre et sur la bonne entente, c'est qu'on a mis, on est resté 10 jours ensemble. On s'est baladé, on a même été rencontrer un certain docteur Balafon. Qui s'appelle Sorozana, donc qui répare les balafons. Donc après, il nous a fait rencontrer d'autres personnes. Donc on a vraiment vécu dans le balafon pendant 10 jours et on a pu en sortir 4 morceaux ensemble.
Voilà. Ouais, justement, Docteur Balafon, il est là. Docteur Balafon, Practica featuring Innocent Kimpé sur RFI et sans dévoiler de secret, notre réalisateur d'un jour, Olivier Roux, adore. Alors, quand on est DJ comme vous, Practica, on a aussi les platines et les disques, hein, évidemment, comme outil de travail. Samedi, pour le set au Festival de l'Imaginaire, avec Simon, vous aurez toute une collection de disques. Hein, la collection du label Inédit, le label de la Maison des Cultures du Monde. C'est un label qui a démarré en 85, qui va donc bientôt fêter ses 40 ans et qui compte plus de 150 références de musique populaire et savante issue de 75 pays environ. Alors, c'est une sorte de caverne d'Ali Baba, quoi. Comment vous avez fait votre choix ?
Déjà, j'ai commencé par écouter tous les albums.
C'est un bon début. Tous les albums, de A à Z.
Oui. Ouais. Et j'ai tout écouté.
150 albums, ouais.
J'ai écouté 156 albums.
Ah, soyons précis, vous avez raison, ouais.
Et non, franchement, c'était une bonne... En fait, en gros, la Maison des Cultures du Monde qui m'a demandé de faire 6 mixtapes de 15 minutes. Et que, voilà, après, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais j'ai pas le droit de rajouter de musique électronique dedans.
Ouais.
Et donc, du coup, dans ces mixtapes-là, c'est des mixtapes de 15 minutes. Et donc, j'essaye de prendre plein de sons du monde entier, de toutes ces compilations-là, et d'en faire un voyage, donc 6 voyages. Et pour l'instant, il y en a 4 qui sont sortis, voilà. Et là, pour demain, ça va être différent, parce que moi, je suis quand même dans la musique électronique, et ça me démangeait de rajouter des choses sur ces musiques. Donc du coup, j'ai fait quelques edits sur ces musiques-là. Donc j'ai créé des sons sur ces musiques-là que du coup, je vais mixer demain soir à la péniche.
D'accord, donc il y aura une partie DJ set solo. Et oui. Ensuite, Simon va intervenir. Comment ça va se passer tous les deux ?
En gros, Simon, c'est ça. Toi, il va faire son concert au début.
Au début, ouais. Ouais.
Après, donc, en solo.
Voilà.
Avec quel instrument, Simon ?
Ben, avec la flûte.
Avec la flûte, d'accord.
Oui, avec la flûte. Et après, on fait un truc aussi avec Practica.
Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Bon, après,
on va faire une
votre
fusion
solo
tous les
m'intéresse
deux.
Aussi, Simon, évidemment, ça va de soi. Mais alors, comment est-ce que vous allez justement avancer la flûte, les machines et donc ces fameux disques de ce label inédit ?
Bah, au fait, moi, je vais ramener une boîte à rythme avec un synthétiseur. Et donc, on va pouvoir faire une fusion. Donc, après son concert, du coup, on va fusionner deux, trois morceaux ensemble. Et après, je vais continuer sur les sons inédits que j'ai édités. Voilà. Mais on va pas mettre du son en même temps du label inédit avec notre création, parce que là ça aurait été un peu chargé.
Compliqué, quoi.
Oui, voilà.
Voilà. Bon, on verra ça demain. On va se quitter Practica avec un dernier extrait de votre nouvel album Zélé, qui est d'ailleurs entré dans la playlist RFI de ce mois de mai. Alors c'est un autre featuring avec la chanteuse ivoirienne Jaël, et c'est un hommage à quelqu'un qu'on connaît assez peu, qui est une autre chanteuse ivoirienne des années 90 cette fois-ci, Zélé de Papara. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, Zélé de Papara, oui, c'est... alors, je vais en parler brièvement, parce que du coup, c'est une longue histoire.
Ouais.
Mais c'est un monsieur qui s'appelle Adolphe Yassé. C'est un producteur ivoirien qui m'a fait écouter cette chanteuse avant que je parte le lendemain à Korogo, donc dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et du coup, la veille, il m'a fait écouter cette chanteuse, et elle a une voix mais énorme. Et ça m'a donné la chair de poule. Déjà, j'en parle, là, j'ai un peu la chair de poule. Et ça m'a donné envie. Alors, il m'a raconté son histoire. En fait, c'est une chanteuse qui a eu un destin assez tragique. Elle a eu 11 enfants qui sont tous décédés avant l'âge de 3 ans. Et suite à ça, elle s'est mise à chanter dans beaucoup d'événements, donc les funérailles, les baptêmes, et au fait, elle a commencé à être connue par sa voix, parce qu'elle a une voix qui a un spectre aussi, elle mangeait des plantes pour qu'elle ait une voix qui puisse être au-dessus des balafons. Et comme ça, elle pouvait chanter et vraiment qu'on l'entende vraiment bien.
Ouais.
Et en plus de ça, au fait, elle donnait des conseils, elle donnait beaucoup de beaux conseils, elle aimait rigoler. Et au fait, dans tout le nord de la Côte d'Ivoire, donc en pays sénoufo, tout le monde se l'arrachait. Et petit à petit, il y a même des producteurs ivoiriens qui voulaient vraiment la voir en mode Maria Callas. Voilà.
Ah ouais, carrément.
Et elle a toujours refusé. Et dans ses chansons, dans ce que j'écoute, c'est vraiment la musicalité de sa voix. C'est une personne qui faisait du balafon aussi, une femme qui faisait du balafon, qui faisait du tambour, qui chantait. Enfin voilà, pour moi, c'était une grande femme. Et elle est décédée en 95. Sa maison, bon, elle s'est écroulée sur elle. Et voilà. Ouais, en tout cas...
Enfin, c'est vraiment un destin extrêmement romanesque pour le coup. Ouais, ça mériterait une émission, on va s'y intéresser. Merci, merci beaucoup à tous les deux, Practica et Simon Wincey, d'être venus nous voir. Hein. Rendez-vous donc demain, 22h30 sur la péniche Anaco, au 27e festival de l'imaginaire dans le bassin de la Villette à Paris. Et voici donc l'hommage de Practica et Jaël à Zélé de Papara. Ça s'appelle Zélé et vous êtes bien sûr RFI.
Afali asua sieli wa ulembo Afali asua sieli wa ulembo
Practica featuring Jaël dans VMDN.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et autour de la table cette semaine, Carmen Lutzmann, Clara Gabillet, Marjorie Bertin, bonjour.
Bonjour
François.
Dans un instant, on part au Maroc et au Sénégal, plus précisément avec vous, Clara, dans les eaux sénégalaises.
Oui, les eaux sénégalaises où la concurrence est rude, hein, les pêcheurs sénégalais en difficulté face aux chalutiers étrangers. C'est l'objet d'un documentaire qui s'appelle Razia sur l'Atlantique.
Pas très loin de là, le Maroc, Marjorie, le oui. Maroc où se tient la 27e édition du festival de Fès, festival des musiques sacrées du monde.
Oui, des concerts internationaux, un forum de philosophie, des nuits soufis. Ce festival fait vibrer les corps et les cœurs à travers des concerts qui sont exaltants et forcément mystiques.
De notre côté, à nous ici en Europe, l'été approche. En tout cas, il y a toujours celui intemporel de Vivaldi, l'été de Vivaldi, des quatre saisons évidemment qu'on va retrouver avec vous, Carmen, dans une version inédite.
Thank you.
Un été orageux et même torrentiel, hein, les quatre saisons d'Antonio Vivaldi, toujours avec la même fureur. Pour célébrer leurs 300 ans, le violoniste français Julien Chauvin et son ensemble, le Concert de la Loge, ont souhaité donner un nouvel éclairage à ce qui est un véritable tube, hein, de la musique baroque, ce qui n'est pas une mince affaire évidemment, vu la multitude d'arrangements et d'enregistrements extrêmement variés depuis la création de cette œuvre, une œuvre vraiment culte, hein, Carmen.
Plus de 1000 enregistrements en tout cas au compteur depuis le tout premier en 1948, sachant que cette œuvre légendaire du violoniste virtuose et prêtre vénitien, qui lui avait enchanté la sérénissime du XVIIIe siècle par une quarantaine de cantates, une cinquantaine d'opéras et plus de 500 concertos, eh bien, ces quatre saisons sont complètement tombées dans les oubliettes après la mort du compositeur, décédé dans la solitude et la pauvreté.
Oui, quatre concertos baroques reviennent en force à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et depuis, ils sont vraiment mis à toutes les sauces, hein. Jazz, rock, reggae, chacun sa préférence, à toutes les occasions aussi, des attentes téléphoniques sur les répondeurs, aussi des programmes de patinage, des publicités.
Et des séries télévisées comme encore plus récemment Mercredi de Tim Burton qui fait résonner l'hiver. Assez captivant hein, dans cette version du concert de la Loge.
Clara connaît visiblement, non ça vous,
alors non, je n'ai pas vu, mais je connais. Ouais.
Voilà, moi, j'entends presque en fait, la neige grincer sous les pas par ces musiciens. Il existe aussi des arrangements pour accordéon, viola roue, pipa chinois, tout ça pour vous dire, Jean-François, que ce nouveau projet scénique et discographique du chef d'orchestre Julien Chauvin vaut presque acte de bravoure.
C'est un vrai challenge de s'atteler à cette œuvre qui est tellement jouée, tellement rabâchée. Quand on a commencé à avoir ce programme, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a encore quatre saisons dans notre quotidien? On a l'impression parfois que les saisons elles sont mêlées ou alors qu'il y a deux saisons en une. Je n'ai pas non plus voulu me livrer à une vision pessimiste, des vents qui seraient encore plus forts, des torrents qui seraient encore plus importants pour aller plus vite. Mais cette œuvre, elle est infinie parce que tout ce qu'elle décrit, on peut l'imaginer sous un nouveau jour à chaque fois qu'on le joue, si on le joue au Brésil, si on le joue en Russie, à n'importe quel endroit de la planète, et on peut le raconter.
Alors, expliquez-nous un peu quand même, Carmen, comment se racontent ces quatre saisons version 2024?
Alors, le concert de la Loge, qui, pour la petite histoire, Jean-François, était baptisé à sa création, il y a près de 10 ans, le concert de la Loge olympique.
Oh, tiens donc.
Oui, d'après un ensemble qui a existé, les francs-maçons du XVIIIe siècle. Donc, ce nom historique était bien sûr amputé ensuite par le comité olympique français en 2016. Bref, cet ensemble aime créer des liens avec le public de manière originale. Il fait appel donc à l'un des chorégraphes les plus en vue du moment, Murat Merzouki, danseur hip-hop.
Le pari, c'est que la place de la musique, la place de la danse, font plus qu'un. Ça nécessite de sortir de sa zone de confort, d'ouvrir nos mondes, que ce soit la musique classique, la musique baroque, la danse, à un public plus large.
Le franco-algérien ne travaille pas seul, hein, mais entre autres depuis 13 ans avec Colin Sabri, qui vient du Break et qui est directeur artistique du centre de formation Adage à Bordeaux, dans l'ouest de la France.
L'idée était de prendre des danseurs qui étaient hyper amovibles, autant sur la danse contemporaine que sur la danse hip-hop, sur le break. Au tout début, on était parti sur un 15 minutes, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, à peu près 3 semaines. Mais la relation entre les musiciens et les danseurs de la compagnie, ça a été une connexion directe. J'ai pas senti de froideur où on peut nous regarder un petit peu de haut. Nous, danseurs de rue, en tant que musiciens classiques, ils ont tout de suite déliré avec nous. Ils sont rentrés dans notre mood, en fait, dans notre système. Donc les 15 minutes sont transformées en 45-50 minutes. Et surtout, ce que lui, Murat, il adore, c'est de jouer avec les autres artistes. Pas de mettre les musiciens derrière un tulle et les danseurs sur le plateau. Non, non, quand il y a une symbiose sur le plateau, tout de suite, il va attraper le moment et il va le saupoudrer et créer cette magie, cette connexion. C'est ça, en fait, qui fait la force d'un vrai spectacle. C'est une complicité de dingue. C'est ce qui construit un artiste, en fait, l'aventure humaine.
Et dans ce cas-là, Carmen, baroque s'accorde parfaitement avec hip-hop.
C'est même une évidence pour Julien Chauvin.
le fondement de la musique baroque, c'est la danse, c'est le mouvement. Que ce soit des mouvements lents ou des mouvements rapides, on est toujours avec une grâce, avec un rebond, des moments où on est en l'air, des moments où on est vraiment dans le sol. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pratique de la danse hip-hop.
Alors c'est vrai que la musique virevoltante de Vivaldi se prête plutôt bien, hein, on le sait instinctivement, aux toupies et autres figures tournoyantes
vous faites bien la
du
toupie,
hip-hop,
Jean-François.
Que vous adorez, Marjorie, je le sais. Comment ça se marie sur scène tout ça?
Eh bien, ils sont 14 musiciennes et musiciens, 7 danseuses et danseurs, tous pieds nus et vêtus de manière décontractée, dans des couleurs de terre et de verre, évidemment pour cet hymne à la nature, où tout se mélange, les breakers se glissent à travers les musiciens qui entrent eux-mêmes dans la danse. On dirait des pas de deux entre instrumentistes et danseurs, tellement la musique et le mouvement se complètent, se mettent en valeur mutuellement. Mais le plus étonnant, Jean-François, face à ces breaks par terre et ces pirouettes dans l'air, la partition vieille de 3 siècles semble même rajeunie, plus moderne, plus intense, preuve que les 4 saisons de Vivaldi sont tout simplement intemporelles.
Voilà, une nouvelle production donc signée Julien Chauvin et le concert de la loge chorégraphie Mourad Marzouki et qui poursuit son chemin à travers la France et l'Europe jusqu'en juin 2025. Merci beaucoup Carmen. Tous vivants, quelques notes du rappeur Youssoupha à présent avec Oumou Sangaré dans le Café Gourmand de VMDN. Alors on va parler, Clara, d'un phénomène à présent qui frappe le Sénégal depuis plusieurs années. RFI et les journaux africains de RFI s'en font d'ailleurs souvent l'écho, la surpêche des eaux riches pillées par des pays européens ou encore la Russie et la Chine. C'est le sujet d'un documentaire, Razzia sur l'Atlantique, réalisé par Nicolas Van Ingen et que vous avez vu pour nous.
Oui, ce documentaire nous emmène donc au Sénégal à travers des paysages magnifiques filmés au drone, des plages quasi désertes, des superbes couchers de soleil sur la mer. Une mer longtemps réputée très poissonneuse où le poisson était considéré comme une ressource quasi inépuisable grâce au phénomène de poêling. Je ne sais pas si vous savez ce dont il s'agit. Ce sont des courants d'eau très froid qui remontent vers la surface avec beaucoup de nutriments, ce qui explique le fait qu'il y ait beaucoup de poissons. Mais la réalité derrière tout cela n'est plus si belle aujourd'hui.
Hélas! Depuis quelques années, ce poisson qu'on pensait inépuisable se fait de plus en plus rare.
Mon nom c'est Malik Sel. Je suis pêcheur et j'ai 2 bateaux qui vont en mer tous les jours. Au début, c'était rentable, mais maintenant, ce n'est plus rentable. On emprunte des filets, de l'essence et de quoi vivre. Parfois, on peut rester jusqu'à 20 à 1 mois sans rien amener.
Il y a eu un point de bascule en 1975 quand les premiers accords sur la pêche ont été signés entre l'Union européenne et le Sénégal avec la première convention de Lomé.
C'est sur une poignée de main cordiale que commence le pillage des eaux du Sénégal.
Ils ravagent tout sur leur passage et ils rejettent les 80% de leurs prises en mer. Et ils pouvaient pêcher plus de 6000 tonnes par jour. Ils pêchaient en une semaine tout ce que la pêche artisanale pêchait en un an.
C'est Karim Sall, syndicaliste et pêcheur que l'on entend. Il a vu de nombreux chalutiers étrangers, pas seulement européens, hein, venir pêcher, mais de façon totalement déraisonnée dans les eaux du Sénégal.
Oui, en fait, Clara, le documentaire décrit un peu les différents rouages qui ont mené à une situation aussi compliquée aujourd'hui.
Oui, c'est toute une chronologie, avec notamment à partir de 2012, avec Macky Sall à la tête du pays, de nouveaux accords plus restrictifs qui sont signés. Mais la Chine, par exemple, trouve une faille juridique, explique le réalisateur Nicolas Van Ingen.
Il y a la Chine qui vient avec beaucoup de chalutiers, beaucoup plus que ce que faisait l'Europe. Et ces chalutiers sont aujourd'hui sénégalisés. C'est-à-dire qu'on donne 51% des parts à un associé sénégalais qui est un associé de pacotille. Et le bateau a comme ça, arbore un pavillon sénégalais. Alors qu'à bord, c'est un équipage chinois. Le poisson, quand il est arrivé à terre, il repart tout de suite vers la Chine ou vers l'Europe. Et donc, il n'y a aucun bénéfice pour le pays, ou quasiment. Ça, c'est le troisième rouage qui est vraiment, à l'heure actuelle, le pire qui existe.
À cela, il faut ajouter des bateaux pirates qui pêchent en toute illégalité, ce qui appauvrit encore plus les pêcheurs sénégalais. On le voit très bien dans le documentaire avec toutes ces pirogues très colorées, très belles, hein, qui restent sur la plage. Certaines sont accompagnées d'un panneau à vendre avec le numéro du propriétaire. Hein, triste illustration de ce qui se passe. Des conséquences sociales très lourdes qui poussent beaucoup de personnes à partir, à quitter le Sénégal. Cela touche les pêcheurs, mais pas que, hein, toute la population, notamment les femmes, explique Nicolas.
Il y a beaucoup de femmes transformatrices, par exemple, qui n'ont plus les possibilités d'acheter du poisson. Parce que le poisson gros, il s'en va, il va à l'étranger, il est plus rentable là-bas. Et le poisson petit, il part dans les usines de farine de poisson. Donc elles ont vraiment des grosses difficultés à trouver de quoi faire leur quotidien. Et ça a des conséquences ensuite sur l'intérieur du pays, parce que l'intérieur du pays se nourrit de poissons séchés que les femmes transforment. Donc l'intérieur du pays n'a plus les protéines de poisson, les femmes n'ont plus de travail, n'ont plus d'économie, et les pêcheurs se retrouvent avec des bateaux vides, pas rentables, et donc évidemment la solution pour eux c'est de partir en émigration à l'étranger.
Des histoires tragiques hein, que l'on connaît hein, avec des morts en mer, et pour ceux qui y arrivent, on le voit dans le documentaire, des exils très difficiles à vivre, notamment un pêcheur Ibrahim qui se retrouve à Boulogne-sur-Mer, loin de chez lui.
Dans le nord de la France. Et c'est aussi tragique au niveau environnemental, Clara.
Absolument, puisqu'on parle de chalutiers qui raclent les fonds marins, qui attrapent presque tout sur leur passage, les coraux, les poissons. C'est aussi ce qu'a voulu souligner Nicolas Van Ingen dans son documentaire.
On est en train de détruire le milieu de vie des poissons et on est en train de détruire la mer. Hein. C'est ce que dit l'écologiste qu'on interviewe dans le film. Là. La mer, ça produit quand même 50% de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui. Et on est en train de détruire ce milieu qu'on connaît mal. Sans en mesurer les conséquences. L'espoir environnemental aussi, il existe. Si on arrête de pêcher, le poisson, en général, réagit très bien, à condition qu'il en reste. Si on arrête les accords aujourd'hui, ce qu'est en train de, je pense, faire le nouveau gouvernement sénégalais, on peut espérer que ça aille mieux d'un point de vue de la pêche industrielle. Mais il va rester un gros problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pirogues sénégalaises. Actuellement, il y a 17 000 ou 20 000 pirogues sénégalaises qui, eux-mêmes, ont des forces de pêche qui sont loin d'être négligeables. Donc il faut qu'eux-mêmes s'appliquent des règles garder la part de demain, hein, ce qu'ils appellent la part de demain, c'est-à-dire le poisson qui naît aujourd'hui et qui va profiter à leurs enfants. Et ça, il faut qu'ils arrivent à se mettre des règles à eux-mêmes. Ça aussi, c'est très, très compliqué, quoi.
Alors, vous l'aurez sans doute deviné, c'est pas forcément un documentaire très optimiste.
Non.
Mais c'est précieux hein, pour comprendre tous ces enjeux qui se jouent dans les eaux du Sénégal. Ce qu'on le disait, hein, toute cette chronologie qui a mené à la situation actuelle. Un sujet qui n'a pas fini de faire parler de lui. Hein. Il y a quelques jours, la Commission européenne a adressé un carton jaune au Sénégal pour ne pas être assez coopératif, ne pas être assez investi dans la lutte contre la pêche non réglementée dans ces eaux.
Clara Gabillet dans le Café Gourmand de VMDN. Razzia sur l'Atlantique de Nicolas Van Ingen est donc présenté en ce moment au FIGRA, le Festival International du Grand Reportage d'Actualité à Douai, dans le nord de la France. Et puis également, vous me le signalez, Clara, pour les abonnés de la chaîne Ushuaïa, ce sera visible
demain soir
à 23h30. Merci Clara. C'est à vous, Marjorie. Vous piaffez d'impatience de nous parler de votre voyage au Maroc, où le Festival des musiques sacrées du monde continue de battre son plein dans la ville impériale de Fès.
Oui, je serais bien restée un petit peu plus longtemps. Donc, ce festival, il a pour vocation de faire dialoguer les spiritualités grâce à la musique. Alors, à cette image, le premier jour, lorsque je suis arrivée, je me suis précipitée pour aller voir le spectacle d'ouverture de cette 27e édition, Ziryab ou la 5e corde, qui rassemblait des artistes, 12 d'Ouzbékistan, de Syrie, d'Inde, d'Espagne, d'Égypte, d'Italie, de France et d'autres, et bien sûr évidemment du Maroc. Imaginez en plein air, il y a d'immenses images de calligraphie, de mosaïques, des étoiles qui sont projetées sur les grands remparts de Bab el Makina. C'est là que se tiennent la plupart des concerts. Il y a une sorte de in et de off, si vous voulez, grands concerts et des formes plus intimistes. Donc c'est une place fortifiée du XIIIe siècle avec des milliers de personnes dedans, nous les spectateurs, et devant en l'occurrence des artistes en costumes somptueux qui font vivre l'histoire mythique et mystique de Ziryab, dit le Merle Noir, père de la musique andalouse et qui nous jouait son voyage. Écoutez.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halaltum ahlan wa nazaltum sahlan baynana. الحس أن علي بن نافع المنصلي الملقب بالذرياب. من بغداد الرشيد جئتكم منشدا.
Alors, 8e siècle, le Ziryab. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce Ziryab d'abord ?
Pas du tout.
Alors, dans les pays arabes, dans la culture musulmane, c'est quelqu'un de très important. Figurez-vous qu'il a voyagé au 8e siècle, hein, avec son oud depuis Bagdad, où il était menacé de mort par un rival musicien qui lui avait dit, en gros, si tu restes avec ton talent, je te tue, jusqu'à la cour omeyyade de Cordoue en Andalousie, où là, il va être très, très bien accueilli, sans jamais, pendant tout ce trajet, renoncer une seconde à la musique et à la foi. Ça, évidemment, c'est une gageure et un exemple pour beaucoup de monde, et particulièrement pour les artistes, notamment Rabbi El-Kati, c'est le monsieur qu'on vient d'entendre, et qui incarnait avec panache et profondeur ce Ziryab.
À travers Ziryab, j'ai fait un voyage à travers le temps et dans l'espace. Il a brillé en Andalousie, et c'est grâce à lui l'invention de la cinquième corde. C'est la définition esthétique du oud, et c'est une sorte d'hommage au créateur du monde, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde le gars, comment il réfléchit, comment il voit au-delà des apparences, lui. C'est un personnage très, très, très spécial. Il nous a donné une leçon, il ne faut jamais laisser tomber son rêve.
Mystique, Marjorie.
Oui, et puis aussi il y a la dimension du voyage, évidemment. Cette année, le festival célébrait un certain type de musique et un certain esprit. À votre avis, quoi, vu ce qu'on entend là, ce qu'on vient d'entendre?
Alors, nous n'avons pas votre science de la musique, Marjorie.
Oh ben non, mais quand même.
Non, fais pas, dites-nous. C'est vous qui étiez sur place, hein, vous savez.
Moi, je me laisse porter, hein, je ferme les yeux, voilà. J'y suis.
C'est Al-Andalus, l'âge d'or du Moyen-Âge, où pendant 4 siècles, on ferait bien d'en prendre quelques leçons, judaïsme, catholicisme et islam vécurent en harmonie. Une ère d'émulation spirituelle, intellectuelle et artistique. Abderrafia Zouitin, président de la Fondation Esprit de Fès et du festival, m'a expliqué pourquoi Fès se prête particulièrement, puisqu'il y a beaucoup d'autres très belles villes au Maroc aussi, très, très chargées d'histoire, à une célébration aussi mystique tous les ans.
C'est une ville qui a une histoire, un passé exceptionnel. Elle a plus de 12 siècles d'histoire. Elle abrite la plus grande et plus vieille médina du monde, plus de 300 hectares. C'est une ville également connue pour son savoir. Elle abrite également la plus vieille université du monde, Al-Qarawiyyin. Donc il y a vraiment une atmosphère globale qui est propre à cette ville, qui fait qu'accueillir un tel festival est un peu quelque part dans l'ADN de la ville de Fès.
Alors, un artiste épris de savoir et de recherche musicale qui était présent aussi à ce festival et que j'ai eu la chance de voir, d'autant qu'apparemment il ne va plus donner de concert avant un bon bout de temps, c'est le Britannique d'origine iranienne, Sami Youssouf. Est-ce que vous le connaissez?
Extraordinaire, grand chanteur soufi. Oui.
Extraordinaire, des millions de vues sur YouTube. Et puis, alors, ce qui est hallucinant, c'est que c'est quelqu'un qui compose absolument tout. Là, on entend un de mes morceaux préférés de tout le spectacle. Sami Youssouf, c'est la star de l'islam. Donc, c'est effectivement un chanteur soufi qui explore les musiques du monde entier. Et alors son concert, il était inédit parce qu'à chaque fois qu'il fait un concert, Sami Youssi, il est malin, il s'entoure des meilleurs musiciens de l'endroit où il se trouve et puis il s'enferme avec eux pendant des jours. Mais un agent d'artiste me racontait qu'il répétait depuis 9h du matin jusqu'à 3h du matin depuis une semaine pour produire ce concert extraordinaire. Alors là, il y avait des artistes du Maroc, évidemment, de France, d'Ouzbékistan. C'était extrêmement plein. Tous les billets étaient vendus des mois à l'avance. Nous étions plus de 5000 dans Bab El Makina et autour pour écouter ce fervent pacifiste, écouter les gens.
À Sanoulade, du nord de la France. On est venu spécialement pour voir Sami Youssef.
Vous êtes venu en famille alors?
En famille, on est à 4. Mais Sami Youssef, ça fait des années qu'on le suit. Parce que c'est un artiste qui aborde pas mal de thématiques artistiques, etc. À travers le monde. Et notamment l'acceptation de l'autre et puis la, la diversité, c'est ça qui est intéressant.
On reçoit son message par ses chansons, comme quoi on est tous un seul peuple, on peut vivre ensemble.
Et alors là, j'ai eu quand même de la chance, parce que parmi les gens que j'ai interrogés pour savoir un petit peu pourquoi ils étaient là, tout ça, je suis tombée sur un couple de Marocains qui était particulièrement impatient. Écoutez.
Imen,
Mehdi. Moi, je suis passionnée de musique sacrée. Et puis, je suis là pour encourager mon oncle qui participe sur scène avec Sami Youssef.
On vient de Casa.
Ouais.
On a pris la route de Casa, 350 km, pour voir Sami Youssef. Et bien sûr, Smaïl Bougia. C'est le Pavarotti marocain.
Ouais, le Pavarotti marocain.
Oui, on y va.
Rien que ça, le tonton de cette jeune femme, Marjorie.
Ah bah oui, alors, bon, moi j'étais complètement sous le charme du tonton et de la chanteuse qu'on entend là, sous ma voix, qui était extraordinaire, qui est une chanteuse marocaine aussi. Mais alors là, je vous laisse juger par vous-même sur le tonton, Ismaïl Boujaïa, en l'écoutant. Alors, pour votre gouverne, cette chanson qu'on est en train d'écouter,
oui.
C'est une chanson très, très, très connue dans le monde arabe. Elle a été chantée par les plus grands, notamment Fayrouz, la célèbre diva libanaise. Et c'est une chanson qui célèbre justement l'époque, l'âge d'or de l'Andalousie. Alors là, le public, c'est pareil, était extrêmement touché, extrêmement ensemble. La musique mystique, je crois que son cœur, c'est que c'est vraiment une façon de se rassembler et aussi de panser ses blessures. Vous aviez reçu il y a quelques mois, Jean-François, Naïssam Jalal.
Absolument.
Pour son nouvel album, des rituels de guérison imaginaire. Je suis sûre que ça va vous plaire, Clara. Et alors là...
J'en ai bien besoin.
Alors, je vais vous en donner un petit extrait. Elle les chantait avec ses musiciens et aussi avec un ensemble de gazba, des flûtes de roseaux d'Afrique du Nord. Et voilà, de spiritualité, mon grand coup de cœur de ce festival, Yatra Safar, une autre création unique du Rajasthan à l'Andalousie, n'en manquait pas non plus.
Merci beaucoup Marjorie, le festival des musiques sacrées de Fès à découvrir donc jusqu'à demain soir dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI à lundi et vous m'en direz des nouvelles.